Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les marteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur.
Aujourd'hui un Sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Aujourd'hui un Sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui un Sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations, ses merveilles. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient. Car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Il jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa vérité. Sauveur nous aimer, c'est le Christ le
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter et de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur.
Alléluia, 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 alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un sauveur qui est le Christ. Seigneur. Alléluia, 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 alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos mains. Seigneur, redis ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo.
Nous voici arrivés en cette nuit au même rythme que les bergers qui reçoivent une annonce, l'annonce de la bonne nouvelle que le Sauveur est né. Alors, prenons le temps de méditer sur cette nuit, ce que les bergers peuvent voir. Entrons, si j'ose dire, dans l'histoire de Noël, non pas celle qui commence jadis autrefois un enfant est né dans une famille, mais selon ce que les évangélistes Saint-Luc et Saint-Matthieu nous précisent, ils ont trouvé des dates, des lieux, et ils ont voulu nous rendre compte de ce que Dieu fait lorsqu'il se fait homme, réellement, comme pour toute personne humaine, avec un papa et une maman. Chaque culture, bien sûr, a sa manière de préciser les choses. Mais si l'histoire inventée est plutôt vague, l'histoire réelle est précise. Ainsi donc, César Auguste, empereur de Rome, si j'ose dire, a inauguré un temps nouveau, un temps que l'on pourrait appeler celui de l'économie, où l'on compte. On compte son peuple, où l'on compte ses territoires, afin que l'on puisse prélever l'impôt au maximum sur le peuple et sur les possessions du peuple. César Auguste se veut être le plus puissant de la terre. Il est comme une divinité, il se prend peut-être parfois pour Dieu, puisque les limites de l'Empire romain sont les limites du monde civilisé. Mais est-ce propre à cet empereur? N'est-ce pas le lot régulier de tout homme politique? Le décret de César Auguste sert d'accomplissement à la prophétie de Michée. Dans le chapitre 5, il nous a dit « Et toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. » Oui, si les hommes conduisent les choses de la terre comme l'empereur, Dieu s'insère dans les activités humaines pour continuer son œuvre de bienfait pour tous. C'est donc par cette décision impériale que, nous dit le pape Benoît XVI, le Logos, la raison créatrice de toutes choses, est entrée dans le monde. Oui, la conjonction entre la volonté humaine et la liberté divine entre en union et ainsi l'histoire du salut se poursuit. Reprenons cette histoire rapidement. Du jardin d'Éden, où le Verbe divin fut la parole créatrice du Père, à sa fermeture par la faute orgueilleuse de l'homme, Dieu n'abandonne pas sa création aux forces du mal, aux forces qui veulent tout détruire. Oui, dans sa patience, Dieu a forgé un peuple élu, un peuple capable d'être à son écoute avant que sa parole unique et infinie puisse être entendue par tous les peuples. Un peuple constitué par la foi d'un seul homme, Abraham, est né la communauté humaine qui, par la foi, peut accueillir la parole de bienveillance divine qui purifie et sauve. Cependant, dans cette histoire du peuple d'Israël, il y a toujours la même problématique. Quelle place Dieu a-t-il dans le cœur des hommes? Et c'est saint Luc qui nous rappelle cela, lorsqu'il précise que pour Marie et Joseph, il n'y a pas de place dans la salle commune. Saint Jean, que nous lirons demain matin à la messe du jour, nous dit « Il est venu chez les siens ne l'ont pas reconnu. » Il n'y a pas de place pour accueillir l'enfant Jésus. Mais il n'y en aura pas plus dans la ville de Jérusalem pour le reconnaître comme fils de Dieu sauveur. Le lieu de naissance de Jésus sera hors de la ville de Bethléem, au milieu des pauvres, dans une grotte. La mort et la résurrection de Jésus, pour sauver toute l'humanité, sera au milieu des étrangers, hors de la ville de Jérusalem, dans une autre grotte. Et pourtant, malgré les apparences d'insignifiance, ces deux points culminants de la présence du Verbe de Dieu sur la terre inversent toutes les valeurs ordinaires des hommes. Un enfant couché dans une mangeoire d'animaux, langé comme prisonnier de ce lieu, de même, cet enfant, devenu adulte, sera enserré dans le linceul de son inhumation dans le tombeau d'un autre. Ni pour sa naissance, ni pour sa mort, il ne sera chez lui. Il sera toujours un étranger sur cette terre. Le Verbe créateur ne sera pas accueilli, selon ce que nous dit l'évangéliste saint Jean. Il n'y a pas de place pour lui dans la salle commune. Mais là, dans cette grotte, dans cette mangeoire, Jésus est déjà sur l'autel de son offrande parfaite. Il est déjà là comme le pain de vie dont il annoncera la nécessité de sa mendication pour être un vivant éternel. La mangeoire est déjà comme le nouveau tabernacle dans lequel il demeurera désormais. Souvenons-nous du tabernacle du temple de Jérusalem. Cette boîte dorée, surmontée de deux chérubins, entre lesquels se réalisait la rencontre entre Dieu et les hommes par l'intermédiaire du grand prêtre une seule fois par an afin de guérir des péchés. Ici, à Bethléem, dans ce village de la maison du pain, Jésus est dans un nouveau tabernacle, surmonté des anges qui chantent la gloire de Dieu parce qu'un sauveur est né. Ici, à Bethléem, dans la mangeoire tabernacle, est installée la nouvelle manne, le corps du Christ. Ici, dans la mangeoire tabernacle, est installée la nouvelle table de la loi, le Verbe divin qui proclamera les 10 béatitudes. Ici, dans la mangeoire tabernacle, est installé le nouveau Moïse, qui conduira le peuple par sa houlette de la croix au vert pâturage du ciel. Mais si le bœuf et l'âne sont là, ce n'est pas une décoration. Le prophète Isaïe l'avait annoncé. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît pas. Mon peuple ne comprend pas. Oui, les hommes qui s'enorgueillissent s'opposent à la nature. Ils veulent lui imposer une idéologie niant les genres et les faits biologiques. Les hommes de notre temps ne comprennent toujours pas la présence de Dieu dans ce monde comme le peuple d'Israël. Seuls les simples comprennent, nous dit encore l'Écriture. C'est pourquoi les premiers à venir sont les bergers. Ces hommes qui vivent en coopération avec la nature, qui vivent de la nature. La paix qu'ils découvrent après l'annonce faite par les anges, c'est un enfant, son papa et sa maman. C'est un enfant obéissant à sa double nature, divine et humaine. C'est un enfant prisonnier de ses langes. Les bergers s'empressent de venir à la découverte de ce qui leur a été dit depuis le ciel. Ils sont curieux des choses divines. Et là, dans la simplicité, dans la pauvreté, ils adorent l'enfant Dieu et reçoivent de lui la première bénédiction de l'ère chrétienne. Et nous, comment allons-nous vivre cette fête de la nativité? Comme nous le chanterons tout à l'heure, de la crèche au crucifiement, tout devient nouveau pour le monde. La fragilité d'un nouveau-né et la mort sur la croix sont les signes de la toute-puissance divine. Ainsi, l'humilité de Dieu rendue manifeste par son incarnation nous ouvre une lecture différente de la vie sur la terre. Une lecture de la vie qui ne trouve pas sa satisfaction dans la possession orgueilleuse des propriétés terriennes et financières, mais dans la mise à disposition de sa vie pour le bien de tous. La paix si ardemment attendue, demandée, vient de la reconnaissance de Jésus comme le prince de la paix, la source de la paix. Qui viendra s'éclairer à sa présence humble et cachée sous les apparences du pain et du vin consacrés? Qui déposera les armes de la nomination devant la mangeoire de Bethléem pour retrouver chez lui, pour retourner chez lui par un autre chemin avec le bâton de la paix, la lumière de la vérité qui obtient la paix entre les peuples? Venir à la crèche, c'est oser se mettre à genoux devant un petit enfant qui nous montre toute l'humilité qu'il faut avoir pour être un collaborateur de Dieu. Osons, chacun et chacune d'entre nous, venir et rester devant la crèche, devant le tabernacle, et laissons la lumière divine nous transformer pour devenir des messagers de la paix et de la joie qui viennent du Père Céleste, Créateur de toutes choses, Créateur bien-aimant de chacun et chacune d'entre nous.